Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talon ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois un véritable rayon de soleil, une éternelle optimiste qui n'a rien à envier à Candide, qui est ambassadrice du 100% Feel Good. Fondatrice du blog The Over Art of Living, Sophie Trem a 37 ans, elle prône un nouvel art de vivre avec le sourire. Je vous invite à faire une immersion dans la Good Mood Therapy. Bonjour Sophie.
Bonjour Valérie.
Est-ce que ce mini CV te convient?
Ah bah écoute, moi il m'en sens totalement. Si tu veux, genre me le répéter tous les jours le matin quand je me réveille, c'est parfait. Hein. Merci. D'ailleurs, je suis ravie.
Comment es-tu tombée dans la blogosphère? Je sais qu'on te pose la question 10 000 fois par jour, mais pour les auditeurs de Chiffon.
Non, bah écoute, de toute façon, la réponse est toujours la même et c'est toujours assez rigolo de raconter. C'est tout simplement par hasard, parce qu'il y a 5 ans, j'avais négocié un licenciement économique et en fait, à l'issue de ça, j'ai rencontré une conseillère du Pôle emploi formidable.
Ça, on peut le souligner en fait, c'est pour ça que je te pose la question.
On peut vraiment, vraiment le mettre en avant, parce qu'il y en a, et tous les jours, je la bénis. Donc, cette fameuse conseillère, le jour où j'arrive, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Elle me dit, c'est formidable, vous êtes enceinte, vous allez faire votre grossesse pendant cette année de chômage.
On devrait bien lui donner la Légion d'honneur en fait.
On devrait.
Enceinte en plus.
Et enceinte, et elle me félicite et elle me dit, vous allez passer cette année à préparer votre future vie professionnelle. Et donc à l'issue de cet entretien, elle me dit, en fait vous êtes hyper créative mais vous le savez pas. Donc, je vais vous renvoyer à l'école. Je vais faire en sorte que vous puissiez faire des formations.
Elle t'a fait un mini bilan de compétences?
Pas vraiment. En fait, c'était juste à l'issue de l'entretien. Elle m'a dit, vous êtes hyper indépendante, vous ne saurez plus travailler comme avant. Et moi, je lui dis, je ne sais rien faire, en fait, de moi-même. J'ai toujours besoin que quelqu'un... J'ai des idées, mais je ne sais rien faire. Elle me dit, bah, justement, va falloir que vous fassiez les choses par vous-même parce que sinon, vous n'allez jamais apprendre à gagner de l'argent. Et vous êtes hyper indépendante, ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à faire les choses par vous-même. Donc, retour à l'école. Je vais vous inscrire à des formations de PAO. Photoshop, HTML, CSS, WordPress,
toutes les clés,
pour faire un site internet. Et donc je retourne en formation, en cours, en pleine grossesse. Je lis beaucoup de choses sur le développement personnel. À l'issue en fait de ces formations, on me demande de faire un site internet. Et en fait, ce fameux site que j'ai créé, il fallait lui donner un titre. Et comme j'ai lu sur le développement personnel qu'il fallait visualiser. Pour matérialiser les choses, on pouvait les écrire parce qu'on commençait vraiment à les construire. Je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas ce que je veux, mais tout ce que je sais, c'est que je veux changer de vie. Et j'ai appelé ce site que j'ai créé au Pôle emploi, The Art of Living, parce que tout simplement,
donc,
je voulais changer
de vie. Donc, on traduit une autre façon de vivre.
Voilà, je voulais juste vivre autrement. C'est tout ce que je savais.
Alors, tu es passionnée de déco et de beauté. Mais tu connais aussi bien la mode parce que tu as bossé notamment pour le salon Tranoï et chez l'éclaireur.
Exactement.
Alors, pardon.
Et j'étais acheteuse aussi chez Vente Privée. C'était pas vraiment de la mode, mais ça restait. J'achetais aussi des fringues. Oui, et puis bah, après, moi, j'ai un background avec le chiffon, en fait, depuis toujours, parce que mes parents sont issus de la confection. Donc mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient à la base étudiants. Et après la guerre au Cambodge qui s'est déclarée, il a fallu qu'ils trouvent un métier. Et ils se sont mis dans la confection. Et à Paris. Donc ils ont démarré avec tous les gens du sentier. Kukai, Sine Qua Non, Aksara. Ils ont démarré à cette époque. Donc moi, j'ai toujours baigné dans les tissus, les boutons, les bruits de machine à coudre, un vêtement, un tissu qui se coud, qui se découd. Je sais exactement comment ça se confectionne, quoi.
Alors pourquoi ne pas avoir fait un blog sur la mode ?
Mais parce que tu sais, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et la mode, justement, je voulais en sortir parce que j'ai vécu dedans. Après, c'était ma passion, c'était mon rêve de travailler dans la mode. J'ai un peu réalisé ce rêve en travaillant dans le milieu des créateurs. Un milieu qui me faisait vraiment rêver parce que j'ai appris à découvrir plein de gens avec des histoires passionnantes. Justement, c'est un peu le côté anti-mode. Le côté créateur, c'est le travail artisanal, c'est le produit intemporel, c'est le personnage derrière le produit. Mmh. Et j'ai adoré ce milieu. Tranoï, en italien, ça veut dire entre nous. Et j'aimais ce côté code... iconoclaste.
Qui est un salon assez pointu quand même, Tranoï.
Il était beaucoup plus à l'époque. Mm-hmm. Imagine, en 2005, c'était le début de l'homme. On a lancé Kitsune, la première fois mm-hmm. que Kitsune a fait un salon. C'était au salon Tranoï Homme. Mm-hmm. On a accueilli Anne de Mulmester. J'ai fait des présentations sur le parvis du Palais de la Bourse avec Dries Van Noten, Rick Owens, mm-hmm. avec Martin Margiela. En fait, tous ces gens que j'ai adulés, je les ai rencontrés grâce à ce salon parce que j'avais la possibilité à chaque fois on devait créer l'incroyable, mm-hmm. quelque chose que personne ne faisait ailleurs. Mm-hmm. Et ça, je l'ai adoré. Mais à un moment donné, j'ai l'impression de tourner en rond parce que je me dis, saison après saison, c'est toujours la même merde.
On va y revenir justement sur l'éternel recommencement de la mode. Quel est ton style ?
C'est le même, je pense, depuis toujours. Depuis très longtemps, je crois que je suis restée bloquée dans les années 90. J'ai toujours 17 ans dans ma tête, donc à peu près 97.
Alors, on peut le dire aux auditeurs, hier soir, tu m'as envoyé un petit message en me disant comment je m'habille pour venir chiffonner avec toi. Alors, je t'ai dit, Sophie, il n'y a pas de vidéo, c'est de l'audio. Donc, tu peux venir nue, en fait.
Ouais, j'ai hésité, mais il ne faisait pas encore assez chaud. Et je t'avoue, je suis un peu pudique en fait, ça se voit pas, mais je suis assez pudique.
Alors comment tu peux te décrire pour les auditeurs ?
Alors là aujourd'hui, je suis vraiment en fait presque comme tous les jours, mais un peu plus chic. Donc la version, tu vois, genre, c'est vraiment pour toi.
Je le note. Le chic selon Sophie Trem.
Voilà, l'uniforme de base aujourd'hui, comme je fais un peu ce que je veux, c'est ça l'avantage d'être à son compte, c'est que je suis souvent en jogging et en leggings.
Donc c'était pas une blague le jogging ?
Non, c'était pas une blague, j'étais vraiment en jogging hier, mais souvent je suis en leggings. Et aujourd'hui, en fait, j'ai mis un leggings en cuir chez Inès et Maréchal, que j'aime beaucoup, qui est une créatrice en fait, qui faisait beaucoup de choses en cuir et en fourrure pour beaucoup de marques qu'on connaît, mm-hmm. mais qui a décidé de se mettre à son nom. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, leggings en cuir, t-shirt offert par une de mes amies.
We should be all féministes.
Voilà, on ne citera pas
le... All be féministes.
Voilà. Et basket. Piola, qui est une petite marque espagnole très sympa.
C'est ton uniforme quand tu n'es pas inspirée ou c'est
Non, vraiment... c'est l'uniforme où je me sens bien. Avec ma petite écharpe Catherine Michels, qui est ma marraine spirituelle. J'aime porter des choses dans lesquelles je me sens bien. Et je sais que je peux les porter dans toutes les circonstances. Et après, toujours beaucoup de bijoux. Je pense que les bijoux plus la combinaison du vêtement...
Oui, tu as des bagues sur la main gauche presque à chaque doigt. Tu as des bracelets.
Ouais. C'est un peu comme des gris-gris et des protections. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je les porte, il y a quelque chose... En fait, j'amène l'énergie que les gens m'ont donnée avec moi.
Plus que les vêtements, finalement.
Le vêtement, il est là pour... il est là pour se sentir bien. Mmh. Moi, depuis le départ, depuis longtemps, j'ai eu besoin que les vêtements ou les chaussures soient confortables. Et je me rappelle que les gens me disaient « Mais on s'en fout du confort. L'important, c'est d'être stylé. » Je dis « Mais pourquoi on ne pourrait pas être stylé et confortable ?» À l'époque, le sportswear, ce n'était pas non plus la grande mode, tu vois. Et j'ai toujours aimé le mélange sportswear décalé avec autre chose.
Mais tu es plutôt plat ou talon ?
Ah bah plat. Évidemment.
Si demain je te dis allez Sophie, je t'embarque, je te relook, je te mets une petite robe noire, 12 cm de talons dans les pieds.
Qu'est-ce que tu me dis ? Moi, je suis schizophrène. Je suis quelqu'un de totalement schizophrène. J'adore les métamorphoses. Ça me fait autant plaisir d'être quelqu'un d'autre en apparence. Mais alors après, le temps juste d'une petite soirée, hein, tu vois, de s'amuser.
Mais pour une journée, non ?
Non, c'est un peu difficile parce que j'ai besoin de me sentir bien. Et si j'ai mal aux pieds, si je me sens un peu étriquée et tout, ça peut me saouler rapidement. Mais après, j'aime bien l'effet que ça peut. Parce que de se voir différemment, et je sais que c'est sortir un peu de sa zone de confort, c'est un truc qu'on ne fait jamais, quoi.
Quel est ton dernier achat fringue ? Fringue, hein.
Dernier achat fringue, j'en achète tellement peu que genre je sais même pas. Peut-être cette veste, cette grande veste.
C'est
comme une sorte de peignoir.
Es-tu une acheteuse
en gros, j'achète des fringues pour mes enfants et pour mon mari. Je me rappelle plus de ce que j'ai acheté pour eux que pour moi.
Oui, donc toi, si j'en conclus, tu es une acheteuse plutôt raisonnable alors.
Plutôt. Vraiment, je pense que quand j'étais très jeune acheteuse compulsive. Donc en fait, le côté drogué, je l'ai eu jeune.
Pourquoi ? Parce que tu cherchais ton style ?
Ouais, et puis je consommais énormément parce que je voyais mes parents faire des fringues toutes les semaines. Tu vois, c'était le sentier. Mm-hmm. C'était genre au gré des saisons, dès qu'il y avait la mode qui tournait, bam, on passait à autre chose. Donc j'avais l'habitude. Et puis dès qu'ils faisaient quelque chose de nouveau, moi je l'avais chez moi.
Ils le testaient sur toi en fait ?
Bah juste, ils voulaient m'habiller quoi. Et c'était un peu les avantages d'avoir une confection. Et du coup, ça m'a donné très tôt, et puis mon père, toutes les saisons, le truc très chouette qu'il faisait, c'est qu'il m'emmenait dans le sentier, et j'allais choisir mes fringues de la saison. Donc en fait, depuis que j'ai 14 ans, j'ai ce truc de saisonnalité, un peu avant, genre on va chercher les fringues et on les achète pour la saison.
Et maintenant ?
Non, maintenant j'essaye d'acheter des pièces que je sais qui vont durer toute ma vie. Enfin, j'essaye de penser comme ça.
Et les vêtements que tu n'achètes plus, que tu n'utilises plus, est-ce que tu es une adepte de l'upcycling ? Tu les recycles, donnes ?
Beaucoup, je donne énormément. Je donne à ma famille, je donne à mon entourage, ma femme de ménage, les gens que je connais. J'ai pas le réflexe de vendre. J'arrive pas à.
Parce que pourtant, les blogueuses, généralement, réputation.
Ben, je sais pas, j'y arrive pas, moi. J'ai pas ce truc de commerçant sur le vêtement, bizarrement. Peut-être que j'ai un petit attachement au vêtement et je me dis, j'ai envie d'en faire profiter.
Tu es dans le don aussi. Je crois que c'est dans ta mentalité.
Peut-être. Et puis. Comme c'est pas des vêtements que j'ai achetés vite fait, pas cher, la plupart du temps, je sais ce que valent ces vêtements et je préfère en faire profiter à quelqu'un que de le jeter. Et au pire, je sais qu'il y a un carton là qui va sûrement arriver chez Emmaüs, mais j'ai un attachement, je réfléchis avant d'acheter, donc je réfléchis avant de le donner.
Alors justement, quel est le vêtement dont tu ne te sépareras jamais ? Est-ce que tu as un vêtement fétiche qui a une histoire ou
Alors j'en ai quelques-uns, mais il y a une créatrice que j'aime beaucoup. En fait, il y a deux créateurs que je porte de façon entre guillemets un peu symbolique parce que j'ai été un peu éduquée dans ce milieu de la mode et j'ai eu des coups de cœur profonds à des moments. Par exemple, quand je suis arrivée en 98 à Paris, c'était le début de Rick Owens. Mm-hmm. C'était l'époque de John Galliano, de Dior, de Louis Vuitton. Mm-hmm. Et toutes mes copines, je me rappelais qu'elles étaient toutes fans de Chanel, Dior, Vuitton. Mm-hmm. Et moi, j'étais fascinée par Rick Owens. Je me dis, non mais c'est ça, la mode de Los Angeles, toute noire. Toute sobre, les baskets, le plat. Je lui ai dit, mais moi j'aime ça. Et c'était le début. Donc j'ai eu cette fascination pour le côté un peu dark. Mm-hmm. Après, par la suite, j'ai compris que j'aimais totalement ça. L'école Anne de Meulemeester, les Belges.
Les Belges, oui.
Rick Owens n'est pas belge, mais c'est un peu l'école un peu dark. Yoji Yamamoto, comme des garçons, et l'éclaireur. Donc j'ai été éduquée un peu dans cette école. Et ensuite, j'ai découvert en 2007 une petite créatrice qui débarquait à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant, elle s'appelle M. Stone.
Et, Alix, voilà, qui est quand même l'opposé du dark. Hein.
Totalement. Mais c'est mon côté schizophrène. Je dois être une des rares personnes à Paris qui porte et du Rick Owens et du M. Stone et j'ai pas de complexe.
Donc M. Stone qui a un univers très coloré avec beaucoup
fou, des superpositions, des mélanges improbables.
Mélange de matière, de couleurs.
Et au final, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... Parce que je connais Michel Lamy comme... Pas aussi bien Michel Lamy que Alix, mais les deux ont une personnalité très colorée et très inspirée des voyages. Et au final, en fait, le message, il est le même. C'est d'être soi-même et l'inspiration des autres, du monde. Et moi, j'aime ce côté un peu visa, passe-partout. Ça veut dire que toutes les deux, elles sont allées chercher ailleurs pour le mettre dans un vêtement.
Et c'est vrai que c'est une... Quand tu portes un vêtement M. Stone, on sait que c'est du M. Stone.
Exactement.
En fait.
Et du coup, j'ai des pièces M. Stone qui sont très fortes. Moi, c'est pareil. J'ai 15 000 manteaux. Non, peut-être pas 15 000. Elle n'en a pas autant de saisons. Mais j'ai plein de manteaux M. Stone. Je n'arrive pas à les revendre ni à quoi que ce soit parce que pour moi, ils se gardent une saison après l'autre.
Ce sont des intemporels.
Ouais, je peux ressortir celui que j'ai acheté il y a 5 ans sans problème. Quoi.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la mode qui était un éternel recommencement. Qu'en penses-tu ?
Justement, à force d'être toujours dans cette boucle qui revenait toujours à l'envoyeur, moi j'avais l'impression de tourner en rond. Et personnellement, mais après j'avais l'impression d'avoir fait le tour des choses. Et j'étais dans un milieu très, très fermé au final. Le milieu des créateurs, c'est un milieu qui parle à très peu de gens, c'est très élitiste, ça coûte très cher. Et en fait, je trouve ça sympa, parce que quelque part j'avais beaucoup appris, mais je me dis quand tu parles à 10 personnes dans le monde, bah t'es content, mais tu sers à quoi au final? Et j'avais cette espèce de, je sais pas, je venais d'accoucher.
Tu avais quel âge?
28 ans. Et je venais d'avoir mon fils et je me suis dit, est-ce que c'est ce que tu veux faire toute ta vie là? Parce que t'as un enfant maintenant, tu cours après les saisons, les salons, les fashion week, c'est toujours le même coup de stress. Tu sais qui va crier à quel moment, pourquoi ils vont gueuler, tu connais les réponses. J'arrivais à anticiper tous les problèmes. Et une fois que j'avais en fait fini d'anticiper tout, je me suis dit, en fait c'est juste que ça me saoule plus que ça m'amuse. Et quand ça m'amuse plus, bah moi il faut que je passe à autre chose. Et j'avais cette obsession du web. J'avais commencé déjà en 2005 à acheter sur internet. Je me rappelle que j'avais acheté sur Yoox mes chaussures pour sur lesquelles je mettais, en fait pour mon mariage, j'ai acheté des chaussures sur Yoox. Et j'achetais déjà sur vente privée à l'époque. J'avais cette obsession de net-à-porter, vente privée.
Donc tu shoppes encore beaucoup sur le web?
Toujours. Ouais,
tu vas pas du tout en boutique?
Je suis un produit issu du web. Genre, j'ai pas l'âge, mais j'ai commencé dès que ça s'est arrivé. Internet est arrivé.
Donc, tu vas pas du tout en boutique?
Si, bien sûr. Non. J'aime les deux. J'aime les deux, mais si tu veux, par facilité, je sais qu'Internet, pour moi, c'est une seconde nature, quoi. C'est vraiment genre réflexe, bim, je commande pour le côté pratique, parce que je suis quelqu'un, j'essaye d'optimiser toujours le temps. Donc
pour toi, aller en boutique,
c'est un luxe.
Mais j'aime ça. C'est pas, oui.
J'aime, et en fait, je préférerais pouvoir aller en boutique, mais par commodité, j'achète sur internet. Mais dès que je peux acheter en boutique, je préfère acheter en vrai. En réalité, là où j'achète vraiment mes vêtements, parce que c'est marrant, tu me disais. À quand remonte mon dernier achat? Mes achats, je les achète souvent quand je pars en vacances. Parce qu'on se balade, on a le temps de visiter des boutiques. Et mon dernier grand voyage, c'était l'année dernière en Californie. Et là, je me suis lâchée, quoi.
Et toi qui prônes justement le bien-être, le 100% feel good, est-ce que tu crois que le shopping peut aider à panser les blessures?
Évidemment, parce qu'en fait, c'est une façon de penser à soi. Déjà d'une, c'est très important de se recentrer sur soi quand on n'est pas bien. Et même quand on va bien, c'est important d'avoir une belle image de soi, de se sentir bien et de se trouver belle. Donc la beauté, c'est le maquillage, ça, tout ce qui peut nous enjoliver de façon générale. Moi, je suis pour tout ce qui peut nous aider à aller mieux. Donc si un vêtement, une belle couleur, une belle coupe peut nous rendre plus jolie, plus belle, mais alors pourquoi pas? Il faut qu'on en abuse, c'est moins cher que d'aller faire une thérapie chez le psy.
J'ai vu justement dans marieclaire.fr, tu disais qu'il faut s'habiller comme on aime. Je cite ce que tu as dit, votre tenue doit vous donner le sourire.
Exactement. Mais moi j'ai envie de me regarder dans le miroir, je me dis, putain, elle est bien habillée la meuf aujourd'hui. Elle est bien sapée et je me dis, bah, si moi je me dis ça, bah voilà, c'est ça, c'est ce qui compte.
Oui, mais en même temps, t'as pas mal de nanas qui se disent, oui, mais moi je n'arrive pas à trouver mon style. Sophie, comment tu fais?
Alors après, c'est vrai que moi j'ai travaillé dans le milieu de la mode où justement c'était tellement important d'avoir son style. Donc quand tu travailles dans la mode et que tu vois qu'il y a des styles dans lesquels en fait tu vois les gens s'engouffrer et après au fur et à mesure tu vois au fur et à mesure ton ADN se créer. Mais en fait c'est juste un ressenti, ce qui te plaît. Il faut juste te poser la question, est-ce que j'aime ça ou pas?
Est-ce que je me sens bien?
Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens juste influencée par quelqu'un? Est-ce que j'aime bien parce que quelqu'un l'aime bien? Parce que quelqu'un m'a influencée? Ou est-ce que c'est parce que ça me plaît vraiment? Est-ce que je me trouve jolie dedans?
Et ben, donc tu demandes aux gens, aux hommes, d'avoir un recul suffisant.
Exactement, fait. Qu'ils n'aient pas peur de se plaire à eux-mêmes avant de plaire à quelqu'un d'autre.
Donc, que penses-tu des filles qui demandent conseil à leurs copines?
Mais c'est important parce que déjà dans la construction de soi, on passe d'abord par le regard de l'autre. Quand on est jeune, il n'y a que ça qui compte. C'est pas inné chez tout le monde.
Mais est-ce que c'est pas mauvais de passer par le regard de l'autre?
C'est important d'avoir les deux. Je pense que c'est important de savoir ce que pensent les autres, mais après de se faire sa propre opinion. Le libre arbitre, c'est quelque chose, dès le départ, je pense qu'il faut que quelqu'un nous l'inculque tôt, que ce soit à l'école, en philo, que ce soit à la maison, parce qu'on nous apprend par exemple, je dis un truc bête, mais un pain au chocolat, comment tu peux savoir si c'est un bon pain au chocolat ou pas? Il faut en tester plusieurs. Après, tu as des copines, tu t'aperçois qu'elles préfèrent tel type de pain au chocolat, et toi, tu préfères ça. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas.
C'est très subjectif.
Exactement, mais la mode, c'est totalement subjectif. Et le fait de vouloir suivre sans arrêt la mode, c'est accepter de ne pas avoir de personnalité. Il n'y a aucun problème. Si tu es en accord avec toi-même et que tu veux ne pas avoir de personnalité, il n'y a pas de problème.
Donc en fait, tu as envie de dire aux filles, arrêtez de suivre les dictats de la mode.
Mais si tu veux les suivre et que tu es en accord avec toi-même, pas de problème. Voilà, exactement. Ça dépend de quel type de fille tu as, mais tant que tu es bien dans des pompes, moi je m'en fous. Les filles, elles peuvent suivre la mode, elles peuvent ne pas la suivre. Tant que tu vois que la fille, genre, elle a la patate, elle est souriante, elle a envie de vivre, et ben, c'est ce qui compte, c'est qu'elle soit bien dans sa peau, quoi.
En fait, toi, tu n'es absolument pas dans le jugement.
Bah, j'essaye de ne pas l'être, en fait.
Parce que j'ai retenu un de tes conseils. Tu dis. It's nice to be nice. Être sympa donne de la gentillesse autour de soi.
Exactement. Bah, en fait, moi, c'est aussi un autre adage, c'est fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mm-hmm. Bah, moi, j'aimerais bien que les gens soient sympas avec moi. Donc, j'ai remarqué un truc quand même, bah, avec ma petite expérience de vie de 37 ans, que ce soit dans le travail ou dans la vie, j'ai remarqué qu'avec un peu de gentillesse et un sourire, tout passe plus facilement. Et j'ai remarqué souvent qu'il y avait des gens qui étaient au même poste que moi ou qui étaient dans le même endroit que moi, ils leur avaient pas la même chose. Mais il me dit, mais comment t'as fait pour avoir ce truc? Mais pourquoi t'as filé ça gratos? Je dis, mais j'en sais rien. Et en fait, je sais pas, juste peut-être parce que j'ai dit bonjour à la personne, je lui ai fait un grand sourire et je lui ai demandé comment elle allait. Et puis bah souvent en fait
ça c'est de la politesse,
c'est de la politesse
et du savoir vivre.
Ça commence à juste être presque un luxe sociétal. Hein. Et j'ai l'impression que finalement ça fait la différence. Et il y a un truc que j'adore faire à contre-pied, c'est quand tu vois les gens hyper stressés, et ben tu leur réponds par un énorme sourire, tu éclates de rire et tu ça va aujourd'hui? Comment ça s'est passé le matin? Vous avez mangé quoi alors? Et là tu les prends totalement dans leur surprise. Et là, tu vois qu'ils se détendent. Et tu t'aperçois qu'en fait, tu as de laisser la journée... elle aurait pu partir de mauvais pied, de mauvaise humeur avec ce mec qui t'a gueulé dessus parce que, genre, dans le métro, tu lui es passé devant. Et t'as réussi à transformer l'énergie.
À inverser l'énergie.
Ouais.
De même, j'ai vu dans une interview aussi que tu disais que t'aimais bien faire des compliments. C'est-à-dire que si tu trouves qu'une copine a une jolie robe... Tu dis qu'il faut le dire quand
exactement.
On le trouve.
Alors ça, je pense que c'est parce que j'en ai pas assez
alors,
eu de moi-même.
Justement, une question, si... Quelqu'un te dit « Je n'aime pas du tout ton pantalon », qu'est-ce que tu lui réponds?
Va te faire foutre.
Ça sort du cœur.
Non, je rigole. Je dis « Il n'y a pas de problème, tous les goûts sont dans la nature. » Mais pourquoi?
Dans une interview, c'était dans le supplément du Parisien, la Parisienne, tu déclares être parisienne, c'est aimer Paris et se sentir chez soi, n'importe où ou dans n'importe quel coin de Paris. Est-ce que tu te définis, comment tu te sens parisienne, toi?
Mais c'est exactement ça. Et en fait, je rajouterais même, je me sens parisienne encore plus et française à l'étranger. En fait, tu sais que t'es française et parisienne quand t'es à l'étranger. Quand tu vois comment les gens te parlent, te regardent. En fait, on arrive avec une espèce d'auréole. Mmh. Genre, les gens nous prennent pour
est-ce que tu crois que c'est du monde. Est-ce que tu crois que c'est justifié?
Non, pas du tout. Mais... profitons-en.
Ah oui.
Ça fait plaisir quand les gens t'arrêtent. Can you speak French, please? Are you Parisian?
You are so sexy.
Oh my God, you are French. Et tu te dis, j'ai encore ouvert la bouche et ils trouvent ça extraordinaire. C'est juste génial. Je dis, moi j'aimerais être comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, bah ouais, je me sens hyper parisienne. Mais après, je le suis vraiment. Donc, pour le coup, et comme je voyage beaucoup, dès que je reviens à Paris, je m'aperçois à quel point j'aime ma ville. Quoi.
Tu as des origines asiatiques, hein, on en parlait, tu viens du Cambodge. Est-ce que cela influence tes goûts et ta façon de vivre? Parce que c'est une question qu'on te pose rarement.
Jamais même, j'ai envie de te dire. On oublie de souligner que je suis d'origine asiatique. En fait, je suis née en France, à Paris, dans le 13e. Mais mes parents sont cambodgiens chinois du Cambodge. Donc en fait, on a beaucoup voyagé en Asie. J'ai une éducation franco-asiatique, même si chez nous, j'allais à l'école privée catholique. Mes parents me parlaient français, mais j'ai toujours appris à parler cambodgien avec ma grand-mère qui était à la maison. Et après, comme j'ai voyagé très tôt... aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, avec ma famille. Je parlais pas encore anglais quand j'étais toute petite, donc ma langue, c'était le cambodgien. Mmh. Et du coup, le fil conducteur, c'était cette culture asiatique que j'avais. Mais comme j'étais toujours un peu rebelle, déjà, bah, moi, le côté très calme, très genre, fais toujours ce qu'on te dit, et ma mère était très dure. Elle va m'entendre, elle va être contente. Ma mère était très dure, elle avait elle aussi très rebelle. Bon, déjà, elle me faisait pas de compliments. Et elle avait toujours tendance à me dire que ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Donc, si tu veux, en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que, de toute façon, c'est jamais assez bien ce que je fais. Bah, c'est pas grave, je m'en fous. Autant faire ce que je veux, parce que, de toute façon, ça sera
trop bien. À quel âge t'as commencé à réagir comme ça?
Très tôt, je crois. Mmh. J'étais en fait dans une famille, je suis fille unique, avec beaucoup de cousins. Et j'étais, en fait, tous les garçons étaient un peu modèles. Mmh. Tous, ils étaient sages, ils faisaient toujours ce qu'on leur demandait, bon, à l'école et tout. Moi, j'avais encore l'école qui me tenait bien, mmh. mais genre, j'étais toujours en train de chercher des conneries, je faisais toujours des bêtises. Les malheurs de Sophie, tout le monde disait que c'était le livre que...
C'était pour toi.
C'était pour moi, quoi. Mmh. Et si tu veux, j'avais toujours un peu ce truc, un peu de vilain petit canard. Mmh. Je répondais... J'avais toujours... Mmh. J'avais vraiment la bêtise... Mmh. En tête, mmh. je voulais toujours en fait m'amuser.
Et t'es retournée au Cambodge ?
Mes parents habitent au Cambodge.
Ah, et maintenant ils vivent, mmh. sont repartis au Cambodge, donc ouais. tu y vas souvent ?
Ma mère habite entre les deux. J'y vais pas souvent. C'est pas le pays dans lequel je me sens le mieux, parce qu'il y a une histoire quand même qui est mmh. très empreinte. Et justement, je voyais toute ma famille, tous mes cousins, tout le monde adore aller au Cambodge. Mon père est obsédé. Mmh. Depuis le départ, il est parti pour reconstruire, aider à reconstruire le pays. Ça lui tenait vachement à cœur parce que mes parents n'ont pas vécu la guerre. Mmh. Et en tant que Cambodgiens qui ont échappé au génocide, en fait, ils avaient un peu l'impression d'avoir besoin de... pas comme une dette, mais de se sentir mmh. utile. Mmh. Et eux, ils ont une passion pour leur pays, pour la reconstruction. Et moi, je suis quelqu'un qui est très lucide et très rapide. J'ai besoin que les choses se fassent vite. Et quand j'ai vu que le pays était corrompu et très difficilement, je me suis dit, remis sur pied comme ça, je me suis dit, il va falloir peut-être au moins une ou deux générations. Je n'ai pas la patience d'une génération pour faire tout ça. Et il y a pas mal de choses qui me choquent parce que c'est très difficile de voir côtoyer et la pauvreté, la dureté. En même temps, c'est très beau. Mm-hmm. C'est un peuple qui est incroyable. Mm-hmm. Et quand tu connais l'histoire, tu peux être que choqué parce que tu dis c'était un pays qui était tellement riche et en avance. À travers toute l'Asie du Sud-Est, c'était un des pays les plus en avance. Mmh. Et tu dis mais comment ils ont pu basculer comme ça dans le noir ? Et forcément, ça me rappelle, c'est une partie de ma famille qui a sombré aussi mmh. comme ça. Donc je me
Toi,
sens
ça
pas...
Ça fait remonter trop de souvenirs en fait, peut-être.
Bizarrement, pourtant, mes parents, eux, ne vivent pas du tout dans ce truc. Eux, mmh. ils sont dans la reconstruction mmh. et ils ont une passion. Et moi, je me sens moins à l'aise. Mmh.
Donc tu te sens plus française et parisienne ?
Complètement, totalement.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Good Mood Class ?
Ah, ouais, bien sûr. Bah là, d'ailleurs, c'est un peu, c'est presque une mini Good Mood Class.
Ah bah là, ce matin, allons repartir avec la pêche.
Mais je vous invite à venir à la prochaine, d'ailleurs, qui aura lieu le 18 novembre. Je vais l'annoncer tout à l'heure. Parce
Où
que ça,
ça
sera les...
Elle aura lieu où ?
Alors, elle aura lieu avec Choé. Qui est une marque de soins franco-coréenne qui vient juste d'être créée par le groupe Alès et qui m'a choisie comme ambassadrice. Et ils ont une boutique, un pop-up store qui va ouvrir dans le Marais. Mm-hmm. Donc on va inaugurer le premier jour de ce pop-up store avec une Good Mood Class.
D'accord. Et est-ce que dans ces Good Mood Class, justement, alors tu essayes de transmettre la bonne humeur, c'est ça ?
En gros, ouais. En fait,
la bonne humeur, le bien-être.
D'abord, en fait, c'est parti. Il faut savoir que ça vient de mon ancien job. Chez Quant, un des cofondateurs de Quant m'appelait la Chief Good Mood Officer, TGMC. Et il me disait toujours, Sophie, c'est insupportable. Ouais, TGMO, mm-hmm. pardon. J'ai vu que tu avais tilté. Sophie, c'est insupportable. Tu es tout le temps de bonne humeur. Ça devrait être un job. Ah à côté de mon job, bien sûr. Mais en fait, il faut savoir qu'on travaillait dans une start-up très dynamique, mais genre avec beaucoup de mecs, mmh. Une ambiance un peu dure parce que mmh. tu sais, faut aller vite, mmh. beaucoup travailler,
exigeante, ouais.
on doit être toujours à l'affût de tout, c'est il faut surmonter beaucoup de choses.
C'est dur de travailler dans un milieu de mecs pour une femme ?
Au début, mais après ça devient un point fort. Mmh. Mais c'est comme tout, tu sais, mmh. tout ce qui est un point faible devient un point fort. Mmh. C'est une transformation, c'est toi de changer le truc. Mais on peut y revenir plus tard. Et donc du coup, moi j'ai adoré. J'ai toujours été dans des milieux, bon, dans la mode, il y avait toujours beaucoup de filles, mais dans mon entourage proche, souvent pas mal de mecs. Et dans ma famille, beaucoup de garçons, donc j'ai un tempérament un peu de garçon manqué. Mmh. Et du coup, ça m'a pas trop choquée. C'était plutôt intéressant pour moi justement d'être. J'avais l'impression d'avoir une valeur ajoutée. J'étais là pour être l'œil, l'esthétique, le côté féminin qu'il n'y avait absolument pas dans la boîte, qui manquait complètement. Et du coup, comme on travaillait beaucoup et que personne n'avait le temps de penser au bien-être. Et
surtout les hommes, c'est rare chez les hommes.
Eux, ils pensent à l'efficacité, au rendement, à l'argent. Et ben, c'était très bien qu'ils pensent à tout ça, mais il fallait quelqu'un. Et je me dis, il n'y a personne.
C'est comme ça que tu as créé.
Et en fait, je cherchais toujours au sein de Quant tout ce qui pouvait amuser tout le monde, tout ce qui pouvait divertir les gens pour que les gens soient contents. Et c'est comme ça qu'ils m'appelaient Chief Good Mood Officer. Et le jour des un an de mon blog, enfin, des quatre, c'était la troisième année, je m'emmêle les pinceaux. L'année dernière, c'était les trois ans.
Le temps passe très vite.
Ouais, je sais. Surtout qu'on ne compte plus les années. C'était les 3 ans. J'ai demandé à mes lectrices ce qu'elles souhaitaient qu'on fasse pour les 1 an. Et elles m'ont proposé une rencontre. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va organiser une rencontre pour les 1 an. Mm-hmm. Et je leur ai dit de s'inscrire sur Instagram. Et il y a 150 personnes qui se sont inscrites. Je me dis, bon, je ne vais pas pouvoir inviter tout le monde.
Tu les as reçues où ça ?
Dans un hôtel qui mm-hmm. s'appelle l'hôtel Arvor, qui mm-hmm. ressemblait à ma copine Clarisse. Toujours cette fameuse petite fée qui me pousse sans...
Dont on a parlé en préparant l'émission.
Exactement, qui m'a dit, j'ai trouvé un hôtel qui ressemble à chez toi en plus grand. Mm-hmm. Il est plein de bois, plein de blanc et on se sent bien comme à la maison. Mm-hmm. Tu pourrais recevoir tes lectrices. Et dépêche-toi parce que ça fait longtemps que tu leur promets ça. Et donc c'était octobre dernier. Et elle me dit, c'est bon, l'hôtel est prêt à recevoir tout le monde, t'as plus qu'à inviter. Je choisis 25 lectrices. Et parmi les 25, la moitié vient de province. Et une de l'étranger. Je me dis, mais elles vont pas venir, elles vont pas prendre un billet d'avion ou un billet de train pour venir prendre un brunch, c'est pas possible. Mm-hmm. Et les filles m'envoient leur copie écran. Je viens, j'arrive de Bordeaux, de Lyon, de Nice.
Incroyable.
D'Allemagne. Mm-hmm. Et là, je me dis, oh putain. Non, mais elles viennent vraiment.
Elles viennent me voir.
Elles viennent vraiment. Genre, c'est à moi de faire en sorte que ce soit pas un brunch. Tu vois, genre, j'ai dit, elles viennent. Toi, démerde-toi pour que ce soit pas que un brunch.
Donc, t'as prévu un numéro de claquette. Exactement. Une chorégraphie.
On sort le cirque. Tous les copains, là, genre, du cirque. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que. En fait, je veux qu'elles viennent et qu'elles se disent, j'ai bien fait de venir. Et en fait, j'ai envie qu'elles repartent avec le plein de quelque chose. Et mm-hmm. je me suis dit, de quoi ? Bah, de good mood. Mm-hmm.
Et c'est ce que t'as fait.
C'est ce que. En fait. Je me suis dit, comment je vais le faire ? Je vais juste leur faire vivre ce que moi je vis pour le blog, c'est-à-dire cette quête perpétuelle de recherche de comment vivre mieux.
Est-ce que tu évoques la mode dans ce cas-là, les fringues ?
Pas assez, je pense, à mon goût. Parce que tu vois, c'est quelque chose en fait qui a été tellement... ça m'a tellement pris toute la vie que je pense que je me suis beaucoup intéressée à autre chose que la mode. Mais plus ça va, et j'y reviens parce que justement, je disais, c'est important d'être habillée comme on veut. Et au contraire, parfois, de temps en temps, quand on veut changer... Bah, je disais,
oser, moi aussi, changer.
Oser changer. Les gens, quand ils veulent changer de vie, ils veulent changer, mais ils ne changent rien. Je dis, commence par changer ta façon de t'habiller. Tu mets jamais.
C'est un premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut changer de vie, de passer d'abord par un changement dans l'habillement.
Exactement, exactement. Parce que
tri de penderie, méthode Marie Kondo, et hop, on y va.
Ouais, ouais. Le rangement, de toute façon, c'est toujours bon, c'est toujours bien d'y voir plus clair, mm-hmm. de savoir à peu près où on en est. Et ensuite, notre corps et nos envies peuvent évoluer. Donc, on a des choses qu'on n'a pas aimées à un moment donné. C'était à un moment donné, ça nous rappelait quelque chose, ça nous faisait, je sais pas, un affect. Le rouge, quand j'étais petite, je détestais ça, tu vois, je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que j'entendais ma mère qui disait tout le temps qu'elle aimait pas le rouge. Mmh. Et un jour, j'ai entendu, elle me disait, quand tu portes du rouge, t'as l'air méchante. Bah, j'ai arrêté de porter du rouge pendant des années.
C'est dur.
Ouais. Mais bon, après, à chaque fois que je portais du rouge, on me disait, mais ça te va hyper bien. J'ai dit, non, mais je peux pas porter du rouge, je me sens pas bien. Mais en fait, j'avais créé le truc. De j'aime pas le rouge parce que et mon mari n'aimait pas le rouge non plus, donc je m'étais interdite de porter du rouge. Et en fait, dans l'année chinoise, l'année de ton année, c'est-à-dire je suis singe, l'année du singe, on dit qu'il faut porter, quand c'est ta propre année, il faut que tu portes du rouge. C'est comme
c'est un porte-bonheur,
une protection et un porte-bonheur. Mmh. Et tous les Chinois m'ont dit, Sophie, cette année, c'est ton année, il faut que tu portes du rouge. Attention, n'oublie pas. Et là, je dis, bon, écoutez, tes amis, je suis désolée, même si ça ne me va pas ou vous aimez pas.
C'est pas possible.
Je dois porter du rouge. Et je me suis remise
à porter. Si tu l'as quand même fait.
Je l'ai quand même fait.
Donc en fait, tu encourages les gens à casser les codes. Et
totalement. Et qu'ils se remettent à mettre des choses qui s'interdisaient ou que, par exemple, ils n'aimaient pas. Peut-être que les choses ont changé. Leur corps a changé, leurs envies ont changé, leur état d'esprit a changé. Et leur regard sur eux-mêmes a changé.
Que dirais-tu à une fille ? Alors c'est ce que j'entends notamment en province, dans les déplacements, dans les interviews en province, les filles me disent oui, mais nous, on n'ose pas sortir en pyjama, on n'ose pas mettre des mules, on n'ose pas mettre des sabots parce que tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
C'est vrai que moi, c'est la première chose que je comprends pas, en fait. Je me dis, mais c'est la base d'être toi-même, c'est apprendre à oser être toi-même. Si tu n'arrives même pas à t'habiller comme tu aimes, genre comment tu peux être autre chose, quoi. Après, je comprends que dans certains métiers, tu as vraiment des uniformes et qu'il y a un code et un truc à respecter. Mais après, quand tu es chez toi, quand tu es à l'extérieur...
Ou pour aller à la boulangerie, même.
Exactement. Mmh. Mais tu fais ce que tu veux. C'est la base de la liberté. Mmh. Si on ne peut même pas s'habiller comme on veut, je veux dire, on n'a plus le droit de rien. Et je trouve que limite, par respect pour tous les gens qui n'ont rien dans le monde... On doit pouvoir avoir le droit de s'habiller comme on veut.
Ah ben, sur ces belles paroles, merci Sophie.
Merci Valérie.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.